7:04.
BBC's Brian Hanrahan.
Buenos días, comienzan las comparecencias.
Thanks so much for that report.
Ailleurs dans le monde à 18h39 et avec vous Olivier Poujade, bonsoir.
Bonsoir Michael.
Alors direction l'Irak pour un long format consacré à la vie après Daesh pour les personnes qui sont parvenues à sortir de Mossoul, Olivier.
Elles se sont évadées ou ont été libérées des mains djihadistes après avoir subi pendant plus de 2 ans la loi de cette organisation terroriste. Ces personnes seules, Michael, ces familles, ces enfants doivent aujourd'hui retrouver une place dans la société irakienne dont les autorités ne reconnaissent pas les certificats de naissance ou de mariage établis par Daesh. Bonsoir Mathilde Dehimi.
Bonsoir Olivier.
Vous êtes allé à la rencontre de quelques-uns de ces civils dans la région de Mossoul. Ils sont plusieurs dizaines de milliers à tenter d'obtenir de nouveaux papiers, ne serait-ce que pour permettre à leurs enfants d'aller à l'école ou d'accéder aux soins.
C'est une petite cahute dans le camp de Razer, à 30 km à l'est de Mossoul. Cet homme prend rendez-vous. Des juristes sont là pour aider ceux qui viennent de fuir des zones contrôlées par Daesh. Certains hommes qui ont pris la fuite ont dû laisser leurs papiers aux différents points de contrôle sur la route. Les juristes tentent de passer les récupérer. Les familles qui font la queue tendent souvent un papier comme celui-ci.
Regardez, il y a écrit « État islamique, centre de santé de la province de Ninive ».
Un tampon avec l'emblème du drapeau mortifère noir et blanc. C'est un certificat de naissance d'une fillette née en avril dernier. Les autorités irakiennes ne reconnaissent aucun papier signé Daesh, mais celui-ci pose un autre problème. La mère de la fillette n'a que 15 ans, illégale aux yeux de la loi irakienne. Le mariage n'aurait jamais dû être prononcé, ni la naissance. Il faudra donc rédiger une demande de dérogation. Dans une tente un peu plus loin, Isra Ali montre fièrement la carte d'identité temporaire irakienne de son fils de 2 ans. Elle a 8 enfants.
Mon fils est né à l'hôpital. Du coup, il avait une déclaration officielle de Daesh avec écrit État islamique dessus. Ils nous ont demandé de revenir pour lui faire de vrais papiers d'identité, mais on ne l'a jamais fait. On savait qu'on aurait un tampon Daesh dessus et on avait peur qu'ils en profitent pour nous changer les cartes d'identité de toute la famille.
Des papiers qui ne sont pourtant que temporaires, hein, Mathilde.
L'administration irakienne ne veut rien précipiter. Il faut vérifier les registres dans des zones à peine libérées. Elle craint aussi que certains parents en profitent pour vieillir leurs filles et les marier ainsi plus vite. Le juge Brahim a installé son bureau, délocalisé exceptionnellement à l'intérieur du camp. On l'entend ici poser des questions à un jeune couple marié récemment à Mossoul sous Daesh. Il a convoqué le couple et leurs témoins les auditionnent avant de donner un dernier coup de tampon.
Non, il ne s'agit pas juste de signer de nouveaux papiers et de remplacer ceux de Daesh. Je dois d'abord enregistrer la demande, certificat de mariage, de naissance ou un dépôt de plainte pour destruction de maison par exemple. Puis convoquer des témoins, trouver les registres ou faire ouvrir une enquête au tribunal. Puis je peux signer des papiers temporaires.
Quand on lui demande si certaines plaintes pourraient servir à terme à la justice internationale, si un jour il y a un procès à la CPI pour des membres de Daesh, il suppose que oui, mais ça n'est pas l'objectif premier, dit-il.
Mais en Irak, comme ailleurs, Mathilde, la guerre ne justifie pas d'exception à la loi. Les juges irakiens restent inflexibles, c'est ça?
Eh oui, Olivier, Duralex, Sedlex, Faisal l'a appris à ses dépens.
Je veux que ma fille divorce de son mari. Il a rejoint Daesh, mais la cour refuse le divorce tant qu'il n'est pas là ou représenté par un avocat pour le défendre. Il a toujours été violent avec ma fille. Il m'a menacé plusieurs fois. Il a aussi porté plainte contre moi au tribunal de Daesh. Il leur a dit, ce gars-là, mon beau-père, c'est un espion qui renseigne les Kurdes, les Peshmerga. Ils ont cherché à me tuer plusieurs fois, tout ça parce que je demandais le divorce pour ma fille. Je suis désespéré. Je n'ai plus de maison à Mossoul. Mes deux frères ont été tués par Daesh. Je vis dans un camp. Je suis un homme désespéré, dans une situation désespérée.
Les juristes n'ont pour l'instant pas trouvé de solution à Faisal et à sa fille. Des cas comme celui-ci, on en a plein, explique-t-il. Les déplacés dans les camps se sentent bloqués un peu plus dans leur vie. La justice irakienne tente-t-elle de ne pas être débordée, alors que l'avancée de l'offensive sur Mossoul Ouest devrait multiplier les cas administratifs à régler.
Mathilde Dehimi, reportage réalisé à la périphérie de Mossoul en Irak. Merci Mathilde. Vous nous parliez notamment du sort des enfants de Mossoul nés sous Daesh. Une conférence organisée aujourd'hui à Paris par l'UNICEF et le ministère des Affaires étrangères s'est penchée plus largement sur la situation des enfants dans la guerre. Comment faire en sorte que ces enfants soient épargnés? Comment les protéger? Bonsoir Manuel Fontaine.
Bonsoir.
Vous êtes le directeur des programmes d'urgence de l'UNICEF. Il y a 10 ans, une première conférence sur ce thème avait déjà été organisée. 10 ans plus tard, l'état des lieux est plus qu'alarmant. Il se résume en un chiffre. 246 millions d'enfants vivent aujourd'hui dans des pays touchés par des conflits. Apparemment, la situation est loin, très loin de s'être améliorée depuis 2007.
La situation ne s'est pas forcément améliorée depuis 2007, mais il y a eu des progrès dans un certain nombre de domaines, notamment dans la question des enfants recrutés, des enfants soldats. Il en reste énormément, mais il y a eu beaucoup de progrès qui ont été accomplis.
On va en parler, mais 246 millions, ce chiffre, il représente quoi et de qui parle-t-on?
Alors, on parle des enfants qui vivent dans les pays dans lesquels il y a un conflit. Donc, ça ne veut pas forcément dire des enfants qui eux-mêmes sont impliqués directement dans le conflit. Le conflit peut être localisé, par exemple, dans une certaine zone du pays, mais 246 millions d'enfants qui vivent aujourd'hui dans un pays dans lequel il y a un conflit.
Quelles sont les régions les plus préoccupantes, selon vous?
Alors, les régions préoccupantes, évidemment, le Moyen-Orient, la Syrie, l'Irak, le Yémen, avec les grandes les préoccupations actuelles que l'on connaît bien. La région du lac Tchad, autour du Nigeria, mais l'impact que ça a sur le Niger, le Tchad, le Cameroun. La République centrafricaine reste évidemment une zone inquiétante. Et puis, certains pays du Sahel, le Mali reste toujours aussi une zone préoccupante.
Alors, parmi ces millions d'enfants, il y a ceux qui sont, malgré eux, enrôlés dans ces conflits. Les enfants soldats, ce qu'on appelle les enfants soldats, les groupes armés les recrutent de plus en plus, apparemment. Et pourquoi ciblent-ils particulièrement des enfants?
Alors, les enfants sont ciblés pour toute une série de raisons. D'une part, ils sont plus faciles à convaincre, ils sont plus faciles, dans certains cas, ils sont enlevés, mais ils sont plus faciles à embrigader, d'une manière générale. Ils accomplissent des tâches que les adultes n'ont pas forcément, sont pas forcément en mesure d'accomplir ou envie d'accomplir. Ça permet de libérer, par exemple, porter du matériel, organiser la cuisine dans certains cas, des esclaves sexuels. Donc, il y a des tâches que, des soldats adultes jouent un autre rôle, mais parfois aussi on les met en première ligne, parce que quand on veut justement éviter d'envoyer ces soldats adultes et aguerris en première ligne, on envoie des enfants. Donc malheureusement, on utilise des enfants dans beaucoup de situations comme ça, et dernièrement, notamment, on les retrouve dans des attentats suicides, parce que on se méfie moins des enfants, on fait moins attention aux enfants, et je dirais que ce qui est aussi dangereux, même dans la manière dont Daesh gère ce genre de situation, c'est que on utilise les enfants contre leur communauté, ce qui a quelque chose de très traumatisant pour une communauté et qui crée évidemment des divisions terribles.
On a une idée du nombre d'enfants soldats dans le monde.
C'est très difficile parce que beaucoup sont cachés, beaucoup sont recrutés de manière que... Bon, on sait par exemple qu'on estime qu'au Sud-Soudan, il y en a probablement 16 000, donc c'est énorme. On estime qu'en République centrafricaine, il y en a peut-être jusqu'à 10 000. Dans d'autres zones où on fait des vérifications, on sait par exemple qu'en Syrie, je crois qu'on a réussi à vérifier plus de 600 ou 700 enfants l'année dernière, mais c'est vraiment le sommet de l'iceberg. Il y en a certainement beaucoup plus.
Mais est-ce que cette situation signifie que sur le terrain, les règles dictées par la Convention de Genève sont de plus en plus bafouées, de moins en moins respectées ?
Oui, probablement. Je pense qu'elles, malheureusement, elles n'ont jamais été complètement respectées. Le recrutement d'enfants, il y en a eu en Sierra Leone, il y en a eu au Liberia il y a longtemps, et ça a toujours existé, encore une fois. Mais c'est vrai qu'on a le sentiment qu'au-delà même du recrutement, les attaques sur les écoles, les attaques sur les centres de santé, les déplacements forcés de population, les attaques sur des villages sont de plus en plus fréquents. Et ça, c'est très inquiétant.
Les outils qui ont été mis en place il y a 10 ans, est-ce qu'ils fonctionnent? Est-ce qu'ils doivent être amélioré? Qu'est-ce qu'il reste à améliorer?
Alors, les outils qui ont été adoptés il y a 10 ans fonctionnent. La chose, c'est qu'ils ne sont pas contraignants. Les principes de Paris, ce sont des engagements volontaires politiques que l'on demande aux États de prendre ou éventuellement à des groupes armés de prendre, de prendre les mesures qu'on estime nécessaires.
C'est-à-dire qu'on négocie avec les groupes armés pour qu'ils respectent ces principes-là.
Qu'ils respectent ces principes-là. Alors, il y a en plus, évidemment, la justice internationale qui, dans certains cas, peut être un relais très important. Donc, il y a des conventions qui existent et il y a des leaders de groupes qui ont été traînés devant les tribunaux internationaux, devant la Cour pénale internationale. Et c'est une bonne chose. Il faut clairement établir des précédents et des exemples dans ces cas.
Mais rien ne prévoit par exemple, aujourd'hui, d'extraire ces populations-là, les mineurs, les enfants de conflits ou de zones de guerre?
Alors, on n'extrait pas tous les enfants, mais par contre, on fait, et on le fait au jour le jour, y compris dans des conflits qui ont encore lieu. On est en contact avec des groupes armés, avec des, par exemple, actuellement, au nord-est du Nigeria, on est en contact avec l'armée nigérienne pour que tous les Nigérianes, pour que tous les enfants qui ont été capturés, qui viennent des rangs de Boko Haram, nous soient remis à nous et qu'on puisse très rapidement leur donner une option de futur et d'avenir et les ramener dans leur communauté. Donc il y a un travail qui se fait même au sein d'un conflit. C'est une discussion constante. On a tous mené des négociations avec des groupes armés ou avec des gouvernements parce que, encore une fois, les enfants doivent être relâchés de manière inconditionnelle et immédiate.
Mais est-ce que des contacts avec Boko Haram ou avec Daesh existent, par exemple?
Ces contacts-là sont beaucoup plus difficiles. Ce sont des groupes qui n'ont pas une vraie volonté d'obtenir un accord politique quelconque. Ces enfants-là, on les récupère plutôt quand ils ont été faits prisonniers ou quand ils se sont échappés eux-mêmes. Et à ce moment-là, on les prend en charge pour leur donner une deuxième chance. Dans d'autres cas, il y a des contacts qui ont lieu.
Vous parlez de traumatisme psychologique. Est-ce qu'on peut penser que ces enfants qui ont vécu de telles expériences peuvent retrouver une vie normale, entre guillemets?
Absolument. Alors d'abord, chaque enfant a un parcours différent. Mais mon expérience et l'expérience de tous les praticiens de terrain, c'est qu'on arrive à sortir ces enfants de ces situations dans la grande majorité. Et non seulement ça, mais on s'aperçoit avec le recul que beaucoup de ces enfants se transforment dans des membres assez positifs de leur famille, de leur communauté, si on leur donne cette chance-là. Et certains deviennent des activistes. À la conférence aujourd'hui, on avait deux jeunes, un qui vient de Colombie, d'autres de Sierra Leone, qui se sont transformés en activistes, qui sont engagés et qui eux-mêmes, un était au sein des FARC, un autre avait été recruté par un groupe armé en Sierra Leone. Ils ont eu des moments très difficiles, mais ils ont été capables de surpasser et de dépasser ça. On arrive en réalité non seulement à récupérer les enfants, mais à en faire des membres actifs et positifs de leur communauté.
Merci à vous, Manuel Fontaine, directeur des programmes d'urgence de l'UNICEF. Ce chiffre, enfin pour conclure, Michael, depuis 2010, chaque mois, plus de 500 enfants soldats sont exfiltrés des groupes armés qui les avaient enrôlés.
Olivier Poujade, merci.